Radio Galaxy 98.5.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulousain, et nous allons parler saisonnalité, nous allons parler abeilles, nous allons parler surtout frelons. Et pour en parler, je suis avec une apicultrice, Virginie Lair. Virginie, bonjour.
Oui, bonjour Bruno, bonjour Radio Galaxy.
Virginie, apicultrice depuis combien de temps sur Rieux?
Alors maintenant, ça va faire ma sixième année.
Sixième année, combien de ruches?
Alors, presque 200 ruches maintenant au compteur.
200 ruches, il y a une cyclicité dans les ruches parce que, au fur et à mesure des années, il y a un prédateur de plus en plus présent sur le territoire qui fait que des années on perd beaucoup de ruches, d'autres années on en conserve quelques-unes. C'est quoi ce prédateur?
Alors, depuis quelques années, on a vraiment des gros problèmes de perte de ruches à cause du frelon asiatique.
Ce frelon asiatique est arrivé dans les années 2000 à peu près sur notre territoire?
C'est ça. Alors, il est arrivé en 2004 dans des poteries dans le Tarn et Garonne. Et depuis, il colonise petit à petit l'Europe occidentale, puisque maintenant, on le retrouve au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Voilà.
La grosse difficulté de ce prédateur, c'est qu'il s'est adapté parfaitement à nos climats, il a beaucoup à manger, on le nourrit bien par rapport à ce qui se fait chez nous, mais alors son cycle c'est quoi?
Au départ, il va vivre sur une saison. Au printemps, vont sortir d'hibernation des rennes. Ces rennes sont déjà fécondes et n'ont plus qu'à faire des nids qui vont grossir au cours de la saison, puis vont s'éteindre à la fin de l'automne, pour refaire des rennes au printemps.
Donc, on est en sortie de l'hiver, on est début du printemps. Ça veut dire que les rennes, en ce moment, sont cachées dans la terre, dans des bosquets, dans des petits trous, des tas de bois, etc., etc. Et elles commencent à pointer le bout de leur nez pour aller se nourrir, déjà, peut-être, et après faire des nids.
C'est ça. Donc en fait, la première mission de ces petites rennes qui sont nées l'année dernière, ça va être de construire leur petit nid et d'élever leurs premiers individus qui vont naître d'ici 3 à 4 semaines.
Une fois qu'elles ont fait ce nid, c'est combien d'individus qui sont dans un nid de frelons?
Un nid de frelons en fin de saison, c'est 7-8 000 individus. Et jusqu'au mois de juin, ça va être une vingtaine d'individus maxi. Donc au départ, la reine va chercher la nourriture pour ses petits. Elle va chercher du sucre pour se nourrir elle, puis ensuite des protéines pour nourrir ses larves.
Ok, on est en plein été, il y a 6-8 000 individus dans un gros nid de frelons qu'on voit, ou pas d'ailleurs, dans les arbres. C'est quoi les dégâts d'un frelon asiatique? Est-ce que ça produit comme dégâts? Et pour les apiculteurs, mais pas que, je crois.
Alors maintenant, on se rend compte que le frelon asiatique, ou plutôt le frelon à pattes jaunes, on ne doit plus trop dire asiatique, lui va manger entre 10 et 15 000 abeilles par jour, ce qui représente 11 kilos d'insectes par an. Il faut se rendre compte que 11 kilos d'insectes par an, c'est environ 5 ruches entières. Pour l'apiculteur, un nid, c'est 5 ruches de perte.
Mais en plus, ça attaque les fruits, ça attaque les cultures.
Bien sûr. Alors, il ne va pas se nourrir que de ça. Le frelon donc, va manger des insectes, mouches, coléoptères, bourdons, guêpes. Donc, il va se nourrir de toutes ces protéines. Ça, c'est pour nourrir ses petites larves. Et ensuite, il va avoir besoin de nectar, de fruits. Donc, il va aller sur vos raisins, vos poires, vos pommes, vos figues pour se nourrir en sucre, ce qui lui donne de l'énergie pour vivre au quotidien. Puis il aime bien si ça a un peu fermenté, quoi, que le fruit il est tombé par terre.
Donc voilà, ce frelon à pattes jaunes, il faut dire maintenant, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ce frelon à pattes jaunes qui va attaquer nos abeilles, il n'a aucun prédateur sur notre territoire?
Alors malheureusement, il a été importé. Donc le seul prédateur qu'on peut lui connaître, c'est l'homme. C'est pour ça que on va essayer de créer un garde-fou, d'essayer de préserver la biodiversité en mettant en place des systèmes de pièges ou de destruction de nids adultes quand on les trouve pour pouvoir essayer d'arrêter cette invasion.
C'est pour ça que c'est la bonne saison maintenant. Donc on est à la sortie de l'hiver, début du printemps, et c'est la saison du piégeage des rennes.
Alors oui, donc on peut piéger ces fameuses rennes avec des pièges bouteilles. C'est très facile à faire. Hein. Aussi, dans les commerces de jardinage, on va trouver des pièges à frelons, hein, tout près, voilà, avec des appâts spéciaux frelons. Mais ensuite, on peut simplement, nous, réaliser notre appât en mettant un mélange de un tiers de bière, un tiers de vin blanc, un tiers de sirop. Le but, c'est que ce soit sucré et alcoolisé. C'est le kir pour les frelons. Et donc, du coup, tout ce qui est guêpes, frelons européens et frelons asiatiques vont être beaucoup attirés parce que c'est alcoolisé, ça fermente, c'est sucré. Donc ça, ça leur plaît. Et ils en ont besoin pour se nourrir, pour l'énergie. Mais maintenant, on va essayer aussi de préserver la guêpe et le frelon européen qui sont des pollinisateurs et qui sont impactés aussi par le frelon asiatique. Donc, on n'a pas forcément envie de les détruire.
L'intérêt de faire maintenant, surtout au niveau du piégeage, c'est que justement, il n'y a pas ces autres animaux qui sont encore sortis, comme les guêpes, comme des mouches, etc., moins présentes. Et ce qui veut dire qu'on attrape essentiellement du frelon à pâte jaune.
On est dans une zone, le Volvestre, le Comminges, où il y a énormément de frelons asiatiques. Donc oui, ils vont être attirés pour trouver de l'énergie facilement. Dès qu'on leur met de la nourriture, ils vont être attirés. Et si, pas loin de chez vous, vous aviez un super joli nid secondaire, qui était un gros nid dans l'arbre, vous allez avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine d'individus qui vont sortir de ce nid. Donc, si on piège, ça fait 30 nids de moins sur votre secteur pour cette année.
Il y a deux choses dans ce que vous dites, la Virginie. La première, c'est que il y a déjà les nids qui restent de l'année passée, ce qui veut donc dire qu'il y a eu une colonie à cet endroit-là, donc forcément des rennes à proximité, premier repère. Deuxième repère, c'est qu'il va falloir chercher les trous, regarder les trous et les anfracturosités qui vont se trouver ou dans la terre, ou dans les murs, ou dans des vieilles bâtisses, pour pouvoir repérer éventuellement des départs de frelons, et à ce moment-là, être vigilant pour éviter, comme vous le dites, que les colonies se créent.
C'est ça. Donc en fait, ces petites rennes vont créer des nids primaires. C'est des petits nids qui ressemblent au maximum à une balle de golf au départ. Et ce petit nid, c'est la reine qui va aller chercher à manger. Donc si on supprime cette reine, on supprime un futur gros nid. Ensuite, vers le mois de juin, quand il va commencer à y avoir une quinzaine d'individus, cette reine, elle va dire si on est bien là, qu'on n'est pas dérangé, qu'on est au fond du garage, dans un petit abri de jardin, une cabane d'enfants qui est un peu abandonnée, ou un vieux nichoir, là, elle se dit on est bien, on reste là. Donc le nid primaire va devenir un nid secondaire où il va y avoir 2000 à 3000 individus.
C'est vrai qu'on en voit dans les arbres, parce que ceux-ci, on les voit, mais il y en a aussi beaucoup dans les greniers, il y en a aussi beaucoup dans les granges.
Bien sûr, oui. Vous pouvez en trouver dans votre sous-sol, si vous avez un vide sanitaire. Vous pouvez en trouver dans une brique, dans un mur, dans une haie. Maintenant, ils sont partout. S'ils ne sont pas dérangés de leur nid primaire, ils vont rester là. Et en plus, ils vont s'habituer à vous. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez passer à côté tous les jours, ou aller chercher le pot de peinture de temps en temps dans votre abri de jardin, ça ne va pas les déranger. Par contre, le jour où vous ne prenez pas le pot de peinture, vous allez de l'autre côté chercher la pioche, parce que ce jour-là, vous avez décidé de planter un arbre, ce jour-là, ils déclenchent une attaque parce que vous ne faites pas le même rituel que d'habitude et qu'eux sont plus nombreux. Ils prennent ça comme une... Ils se mettent en mode défense.
Dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est pour se prémunir de ça, si je suis piqué, qu'est-ce que je fais ?
Alors, dans les vieilles traditions de grand-mère, on aime bien dire qu'il faut mettre du froid. C'est pas du tout la bonne méthode, malheureusement. Le venin de guêpes, abeilles et frelons, c'est thermolabile. Donc, ça disparaît avec la chaleur. Donc, il vaut mieux mettre la main sous l'eau chaude. Et ensuite, ce n'est pas une abeille, donc ça ne laissera pas le dard dans votre peau. Vous allez avoir plusieurs piqûres, ça peut être le même frelon, et vous n'avez pas besoin d'enlever le dard pour enlever le sac à venin, comme ça pourrait être le cas pour l'abeille.
Mais même chose également, c'est-à-dire que le frelon, lorsqu'il vous pique, il vous marque.
C'est ça. Donc en fait, le frelon va laisser une phéromone sur votre peau, qui va dire aux autres frelons de la colonie que vous êtes le danger de la colonie et que c'est vous qu'il faut attaquer.
Donc si je suis piqué une fois par un frelon, j'ai intérêt plutôt à m'éloigner très loin du nid.
C'est ça. Il vaut mieux partir assez loin. Et le frelon est assez tenace comme prédateur. Donc du coup, même si vous faites 10, 15, 20 mètres, il va quand même continuer à vous poursuivre. Il vaut mieux se renfermer dans la voiture ou aller dans la maison pour se protéger des éventuels autres individus qui pourraient, par les phéromones, être attirés à venir vous piquer.
Même chose, je crois qu'il est assez coriace à détruire, même physiquement, quand j'ai vu des gens qui essaient de l'écraser et qui y résistaient beaucoup.
Oui, oui, c'est assez cuirassé comme bête. Donc c'est vrai que c'est assez costaud et puis ça fait quand même 2 à 3 cm de grosseur. Donc oui, c'est pas une petite abeille qu'on écrase.
Bon, on est en train de parler du frelon asiatique, du frelon à pattes jaunes qui est en train de détruire nos récoltes, nos fruits et surtout nos apicultures. À travers les ruches qui disparaissent tous les ans. C'est la période, on est donc à la sortie de l'hiver, au début du printemps, c'est la période justement de piégeage des reines pour éviter qu'elles aient à bâtir leur nid avec 6 à 8 000 individus chaque année qui vont ensuite encore essaimer et se remultiplier. Sachant très bien, comme vous l'avez dit Virginie, que notre région est particulièrement touchée par le frelon asiatique. Rappelez-nous s'il vous plaît ce qu'il faut faire, comment je fais mon piège, c'est ça qui m'importe.
Alors le piège. Alors, c'est pas très compliqué en soi. Une bouteille retournée en plastique peut suffire. Je coupe ma bouteille en deux, je la retourne. Et à l'intérieur, c'est surtout l'appât qui est important. Donc, un tiers de bière, un tiers de vin blanc et un tiers de sucre.
Donc, je répète, je prends ma bouteille d'eau en plastique, je la coupe en deux, les deux tiers, le tiers supérieur. Je retourne le dessus de la bouteille dans la bouteille, c'est ça ?
C'est ça.
Je remplis, comme ça, le frelon peut rentrer dedans, il ne peut plus ressortir après.
C'est ça. Donc ça, c'est le piégeage le plus simple qu'on peut faire tous à la maison. Ensuite, pour la municipalité de Rieux, qui en distribue gratuitement à la mairie. Donc ça, c'est des pièges un peu plus sélectifs. Et ensuite, pour ceux qui veulent vraiment faire du sélectif, il faudra aller vers des magasins d'apiculture ou des magasins de jardinage pour avoir des pièges un peu plus sélectifs.
Encore une fois, c'est la saison pour repérer les reines, c'est maintenant, dès qu'on en voit une qui passe, etc., pour mettre quelque chose à proximité. J'ai eu un nid de frelon près de chez moi, ça veut dire que j'ai des reines à proximité également. Donc à le signaler, mais je les signale à qui ? Je fais quoi si j'ai un nid de frelon chez moi ?
Alors, la première chose à faire, c'est identifier que ce sont bien des frelons asiatiques, parce qu'en ce moment, vous allez aussi avoir bientôt des guêpes et des frelons européens qui vont faire des nids. Donc, on ne détruit pas juste pour détruire. Le plus simple, c'est de faire appel à un professionnel. Il vaut mieux envoyer une photo du nid à un apiculteur ou à des organismes qui détruisent les frelons sur le secteur. Ces personnes-là, elles sont habilitées à le faire. Moi, je conseille quand même de faire appel à des professionnels pour détruire vos nids. Vous amusez pas à détruire des nids tout seul. C'est très dangereux. On peut être allergique aux frelons asiatiques. Et il y a des morts tous les ans liées aux frelons asiatiques.
Alors, je fais appel à un professionnel, mais ça a un prix, ça coûte quelque chose, ça ?
Alors, dans le secteur, ça coûte entre 50 et 180 euros. Cela va dépendre si votre nid est facile d'accès, si la personne qui vient le détruire va avoir simplement besoin de s'habiller, de détruire le nid qui est apporté, ou si c'est un nid primaire, ce sera beaucoup moins cher que si c'est un nid secondaire à 15 mètres du sol et qui a besoin d'une nacelle.
Une question me vient à l'esprit tout de suite, c'est que moi, le frelon asiatique, il s'installe où il veut, je ne l'ai pas invité chez moi forcément. J'ai un nid de frelon chez moi ou à proximité, dans un arbre, dans mon jardin, dans ma grange. Est-ce que j'en suis responsable ?
Alors, depuis 2025, une loi dit que le frelon asiatique est une espèce invasive, donc on peut... les décrets ne sont pas encore passés, on est un peu... politiquement, en ce moment, un peu en retard. Mais les décrets vont passer. Donc, la mairie pourra prendre un arrêté municipal pour vous obliger à détruire vos nids de frelons asiatiques sur votre propriété. Donc, vous êtes responsable de ce qu'il advient à vous et à vos voisins si vous avez un nid chez vous.
Donc, la première chose à faire déjà, c'est de repérer les anciens nids tout de suite parce qu'il n'y a pas encore de feuilles sur les arbres. S'il y a un ancien nid, ça veut dire qu'il y a des reines qui sont à proximité. Et ensuite, ça veut donc dire également qu'il convient de piéger ces reines avec la méthode que vous nous avez donnée, Virginie, sur les bouteilles retournées, par exemple, ou de faire appel à une apicultrice ou un apiculteur pour nous donner des conseils. Piéger ces reines avant qu'elles refassent des nouveaux nids, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et puis, dans le pire des cas, on appelle Virginie Lair à Rieux-Volvestre pour avoir des informations sur les frelons et les abeilles.
Oui, bien sûr. Et puis surtout, vos mairies, elles sont quand même normalement le lien entre vous et la sensibilisation aux frelons asiatiques.
Dernière petite chose, si j'ai besoin d'un peu plus d'informations, est-ce qu'il y a un ou deux sites internet que je pourrais aller visiter pour m'orienter, pour avoir des idées, pour avoir, ou même sur YouTube peut-être des vidéos ?
Il y a pas mal d'apiculteurs sur les réseaux sociaux qui sont aussi des spécialistes des frelons asiatiques. Donc j'en ai un ou deux, un sur Paris et un Étienne sur la région landaise qui font ça et qui sont pas mal. Mais surtout, c'est de se sensibiliser, de savoir peut-être un petit peu aussi se renseigner s'il y a des documentaires, savoir les reconnaître. Aussi, faire la marge entre le frelon asiatique et le frelon européen. Et puis, si on a un doute, qu'on a un nid dans un angle, demander vraiment un renseignement à quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir faire ce qu'il faut pour préserver la biodiversité et les abeilles.
Virginie Lair, au secret des abeilles, merci beaucoup.
Avec plaisir, merci.
Au revoir.
À Muret et tout autour, écoutez Radio Galaxie sur 98.5 FM.